qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
Ah, ça c'est une très bonne question. Et il est clair qu'une chose qui me fait marcher, c'est la connaissance, c'est d'apprendre en fait, le fait d'apprendre, le fait de comprendre en fait quelque chose qu'on n'avait jamais compris auparavant. Ces moments, c'est quand même un moment génial quand on ouvre la bouche et on se dit « Ah, j'avais pas vu ça ». Et ça me fait aussi des plaisirs, ça me fait marcher aussi de transmettre sentiment ou sensation à d'autres personnes. Quand on enseigne, quand on donne des cours dans des classes supérieures, ou quand on enseigne, on donne des conférences de vulgarisation pour les grands publics ou pour les lycées, ça fait plaisir de faire rêver les gens et de les faire comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris auparavant.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Rines Martinez, directeur du laboratoire Subatech Nantes. Rines Martinez est intervenue dans le cadre de la 29e semaine de l'astronomie organisée par la Société d'astronomie de Nantes sur le thème « Chauffer la matière à 1 billion de degrés pour déconfiner ». Qu'est-ce qui vous a conduit à suivre des études en sciences ?
Après, la raison, c'est difficile de donner une raison. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'est quelque chose qui m'attirait. Je voulais faire la physique. Je viens d'une ville au sud-est de l'Espagne, qui s'appelle Guardamar del Segura. Et c'est vrai que quand je dis que je voulais faire la physique, la première réaction de mon père, il dit « Mais j'ai un fils qui est un bon étudiant, il faut qu'il soit soit médecin, soit avocat. C'est quoi la physique ?» Et bon, malgré tout, j'étais assez déterminé. Et j'ai eu la chance que ça s'est très bien passé, surtout la chance de pouvoir, après mes études, continuer dans la voie de la recherche, ce qui était mon rêve à l'époque.
Qu'est-ce qui fait que certains apprécient les matières scientifiques et que d'autres les détestent?
Ça, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, malheureusement. Sauf une réponse, je pense que c'est bien qu'il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. Il faut une diversité, chacun apporte son grain à cette société qui est très complexe. Après, expliquer pourquoi il y en a qui les font rêver, qui les font passionner et d'autres pas, c'est difficile, je ne sais pas où est le petit bouton qui fait la différence.
Nous allons parler de matière. Qu'est-ce qui vous a amené, parce que quand on se lance, on n'a pas forcément pensé sa trajectoire, et donc on se retrouve propulsé dans un domaine.
Bon, c'est un peu un mouvement brownien, effectivement.
Qui va dans tous les sens.
Qui va dans tous les sens, on ne sait pas où ça va. C'est vrai que quand on est... Je pense que les gens, les chercheurs, en fait, j'essaie de me rappeler à chaque fois que je vois un étudiant. Les chercheurs ne voient pas qu'en fait, l'étudiant ne connaît rien. Comment ça fonctionne, quels sont les différents domaines, quelle est la bonne voie à suivre, etc. Et c'est vrai que du coup, quand on fait des choix, on est plutôt ignorant en fait, c'est juste un feeling qu'on a à l'intérieur, ça va, mais on ne connaît pas vraiment, donc du coup à la fin on finit avec un choix, et voilà, donc c'est difficile de revenir en arrière, imaginer qu'est-ce que ça aurait été les autres choix, mais c'est clair qu'il y a un petit peu d'inattendu, de ce qu'on dit les philosophes de sérendipité en fait, quelque part. Et c'est très intéressant que ça soit comme ça aussi.
Pour devenir spécialiste dans son domaine, c'est beaucoup d'énergie, sans jeu de mots.
Ça, l'énergie, je ne sais pas si c'est l'énergie. Moi, je ne sais pas, c'est un peu il faut être passionné, quelque part. Moi, je me rends compte avec l'expérience que le travail, c'est quelque chose de très subjectif. Si on est passionné, il y a des choses qu'on fait, on n'est pas fatigué après. Bon, il y a une fatigue physiologique, bien évidemment, qui arrive à un moment ou à l'autre, mais il n'y a pas une fatigue psychologique qui se met en place. Or, quand on fait des choses qu'on n'est pas passionné, ça peut devenir très très dur, même si la chose dure que 30 minutes. Donc du coup, je pense pas à l'énergie, c'est la chance d'être passionné et d'être...
On est de Montréal, on a besoin de quelques euros. Vous avez de la monnaie ?
Pour l'instant, je suis en plein exercice.
Bonne journée.
Et là où j'étais, je ne sais pas où j'étais d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai perdu là. Avec les filles de Montréal, j'ai perdu les fils de mon histoire.
L'idée, c'était...
Ah oui, la passion. Oui. Mais je dis que c'est la chance d'être passionné par quelque chose, d'être absorbé par quelque chose, qui fait un petit peu la différence. Et après, il y a quelque chose que si on ne maîtrise pas, c'est la cap. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est une chose aussi qui fait marcher, c'est la créativité, d'être face à un problème et être motivé par trouver la solution. Et ces moments où on trouve la solution, et ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est aussi un moment de plaisir particulier.
Mais vous savez ce que vous cherchez ?
Est-ce qu'on cherche ce qu'on cherche ? Non. Sinon, on ne chercherait pas. Disons que ça, c'est une autre chose qui fait marcher. C'est l'imprévu, en fait. On est toujours... on cherche, on découvre des choses, on comprend des choses, on est content. Mais on cherche comme quelque chose de vraiment inattendu que personne n'a vu auparavant. Et ça, c'est aussi un moteur très, très puissant. J'ai des exemples des collègues dans les laboratoires. Et qui vraiment, que cette recherche de l'inattendu, c'est la motivation principale.
Vous dirigez le laboratoire Subatech à Nantes. Vous avez débarqué comment ?
Subatech, c'est un laboratoire que je connais, c'est mon laboratoire. Depuis, j'étais arrivé à Nantes en venant de Normandie, après 4 ans en Normandie. Et j'ai rejoint le laboratoire Subatech comme chercheur au CNRS. Et donc du coup, c'est un laboratoire que je connais bien et j'ai connu plusieurs directeurs. Et là, mon dernier directeur, son mandat arrivait à la fin le 31 août 2019. Et après réflexion, je me suis dit que c'était à moi d'essayer de prendre la responsabilité des coordinations et de s'occuper de ces terreaux, parce qu'on essaie de mettre un terreau pour que des bonnes idées, des bons projets naissent. Que c'est à moi de les prendre et j'ai candidaté pour le poste des directeurs. J'étais retenu et c'est pour ça que j'ai commencé le 1er septembre.
Mais ça veut dire que c'est un laboratoire qui est internationalement réputé.
Subatech, c'est un laboratoire où effectivement, une des particularités, c'est d'avoir un côté international très développé. C'est aussi une caractéristique de notre domaine de recherche, c'est le domaine où finalement un seul pays ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'on fait à plusieurs pays. Et c'est ce que l'Europe a commencé à faire il y a déjà les années 50 avec les laboratoires à Genève du CERN et qui maintenant se développe avec des pays d'autres continents, de l'Asie, les États-Unis, etc. Donc forcément, on travaille tous sur, même indépendamment de la culture. Je dis souvent que dans mon expérience, il y avait des gens de Pakistan qui travaillaient avec des Indiens. Et voilà, avec la motivation de la science, on arrive à travailler ensemble. Et du coup, ça fait qu'on est très international. Et d'ailleurs, par les gens qui nous rendent visite, par les personnels et par nous-mêmes, qu'on est souvent en déplacement pour aller visiter d'autres laboratoires à l'étranger.
Vous êtes invité dans le cadre de la semaine de l'astronomie qui est organisée par la Société d'astronomie de Nantes. Vous vous passionnez aussi pour... l'astronomie, ou c'est simplement parce que il y a des convergences entre votre domaine de recherche et l'astronomie ?
Disons, quand j'étais jeune, l'astronomie, c'est quelque chose qui intéresse toujours, des rêves sous les systèmes solaires, sous les systèmes extrasolaires. Mais en même temps, je n'étais pas quelqu'un qui était très attiré par l'observation, qui est quelque chose de très important dans la recherche. Donc j'étais plus attiré par la compréhension des théories. Ce qui m'a fait partir vers la physique de l'infiniment petit plutôt que de l'astronomie. En revanche, quelque chose qui est beau, c'est de voir comment ces recherches dans l'infiniment petit peuvent avoir des répercussions pour comprendre la cosmologie, l'évolution de l'univers. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et comment certaines observations, c'est le cas aujourd'hui, certaines observations qui viennent de l'astronomie sont des motivations très très fortes pour chercher certaines découvertes très particulières dans les mondes microscopiques.
Par exemple ?
Par exemple, il y a un groupe à Subatech dirigé par mon collègue Dominique Terz qui s'intéresse à découvrir des nouvelles particules qui devraient exister, on ne les a jamais vues. Et on appelle ça la matière noire, la matière sombre. Et en fait, pourquoi les gens cherchent ? Une des raisons, c'est pour comprendre des observations de l'univers qui sont liées au mouvement des galaxies, au mouvement des amas des galaxies, au fond cosmologique. Cette association qui vient de l'extérieur, de l'univers, nous disent très clairement que peut-être il y a une nouvelle particule qu'il faut aller chercher au cœur des montagnes, à la Terre, dans la Terre. C'est un exemple.
Nous sommes à la radio, donc il n'y a pas l'image, mais il y a du son.
Ouais.
Mais si on avait l'image, on aurait du son sans pouvoir détecter la source qui produit le bruit du moteur d'avion. Parce qu'il y a des nuages. Voilà. C'était pour faire une analogie avec la recherche. Des fois, finalement, on peut observer.
On observe et on crée des modèles. Et des fois, ce n'est pas une observation directe. On pense que les modèles deviennent vrais, mais ce n'est pas les modèles qu'on observe. On observe les conséquences du modèle. Et voilà, et les modèles sont toujours valables jusqu'au jour qu'on dit qu'on fait une observation pour laquelle les modèles ne fonctionnent plus et il faut retravailler les modèles. Et c'est comme ça, c'est l'histoire de la théorie, de la physique, c'est un peu ça.
On a plusieurs sources, on a un chanteur, on a des avions.
C'est bien. On a construit tout un modèle de la physique qui aujourd'hui c'est les modèles, ça s'appelle les modèles standards, et c'est les modèles qui fonctionnent, qui n'étaient jamais falsifiés. Dans ces modèles, il y a trois interactions, l'interaction électromagnétique faible, je ne vais pas en parler, mais l'interaction qui nous occupe c'est l'interaction forte. Et à côté de ces interactions fortes, l'interaction forte qui est à l'origine du noyau atomique. Hein. Et cette interaction forte, il y a à côté des interactions, il y a les particules élémentaires. Et il y a effectivement des particules que sont les quarks et aussi les gluons. Les problèmes, on a postulé les résistances parce que les modèles fonctionnent bien, mais la réalité, c'est des particules qu'on n'a jamais vues toutes seules, qu'on n'a jamais vues isolées. Enfin, on ne peut pas. On appelle ça les confinements. On dit que pour pouvoir créer un quark tout seul, il faudrait une énergie infinie. Donc forcément, il est toujours à un état confiné dans une particule plus compliquée qu'on appelle les hadrons. Alors pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est un hadron, l'exemple, c'est les protons et les neutrons, que c'est les constituants du noyau. Donc ces protons et neutrons, normalement, contiennent des quarks. Mais je répète, on ne les a jamais vus isolés. Et ça, c'est quelque chose de... Ça, c'est une première depuis l'histoire des particules, de voir, faire l'hypothèse d'existence des particules qu'on n'a jamais vues vraiment tout seul. Il y avait un chercheur, un théoricien de la théorie d'interaction forte, Dot Cisser, un chercheur, un prof de l'université en France, d'origine russe, qui disait les quarks sont la vérité et les hadrons sont la réalité. Et en fait, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que si on chauffe la matière, donc les protons et les neutrons, on les chauffe à très haute température, la théorie, qui devient à ce moment, peut faire des prédictions, nous dit qu'à partir d'une température de quelques billions de degrés, justement, les quarks se déconfinent. Et c'est ça qu'on essaye, et je dirais qu'on a mis, en fonctionnement dans les laboratoires, depuis 20 ans.
Nous accompagnons dans la rue Rines Martinez, directeur du laboratoire Subatec Nantes. Mais pourquoi s'obstiner à isoler cette particule ?
en fait, c'est comprendre, en fait, les problèmes, c'est que c'est la première fois avec l'interaction, avec la théorie de l'interaction forte, qu'on est face à une théorie qui, dans la majorité des cas, les calculs sont des mauvaises précisions, et voire sont impossibles. Bon, dernièrement, avec le développement des ordinateurs, ou des ordinateurs des grandes puissances de calcul, on commence à pouvoir faire des calculs de plus en plus en profondeur. Mais c'est une théorie que dans beaucoup de cas, on peut pas prédire. Et la seule façon finalement d'avancer, c'est via l'expérience, pour vraiment comprendre les propriétés. Il y a aussi quelque chose qui se cache derrière, cette obstination à la déconfiner. C'est aussi de comprendre, parce que dès qu'on chauffe la matière ordinaire, l'eau par exemple, ses propriétés sont conséquences de l'interaction électromagnétique, parce que c'est la plus importante entre les molécules d'eau. Mais quand on chauffe à des températures si élevées, on a des densités de matière des millions et millions de tonnes par centimètre cube, c'est en fait l'interaction forte qui est la seule qui explique les propriétés de la matière. Et l'interaction forte a d'autres particularités. Et l'idée derrière aussi, c'est de comprendre quelles sont les propriétés de cette matière, où l'interaction fondamentale qui domine est l'interaction forte.
Je reformule ma question.
Oui.
Pourquoi isoler ?
C'est pas seulement isoler, c'est aussi les étudier dans un domaine qui est complètement différent. En fait, on ne les isole pas. L'effet de les chauffer, ce qui nous permet, et c'est ce qu'on essaie de vérifier avec des grands détecteurs, c'est de vérifier que les particules peuvent voyager librement dans des distances qui sont supérieures à la taille de ces protons ou de ces neutrons. Et en fait, c'est un domaine complètement différent. Et l'idée, c'est comme toujours, de vérifier que la théorie reste toujours valable dans ces domaines-là. Et peut-être, c'est
donc
pas
c'est
le cas aujourd'hui.
Pour vérifier une théorie qui peut
finalement,
être...
ce qui motive, comme je disais tout à l'heure, c'est de trouver quelque chose que la théorie, quelque chose de nouveau qu'on ne s'attend pas, finalement. Mais oui. La ligne directrice reste toujours, est-ce que la théorie nous prédit ? Et ce qu'elle nous prédit depuis 20 ans, c'est, comme je disais, le déconfinement des quarks à cette température critique. C'est une espèce de transition. Hein. Des phases, c'est un peu comme les 100 degrés où l'eau commence à bouillir. C'est un peu pareil. Tout d'un coup, à ces billions de degrés, les quarks, les protons et neutrons commencent à fondre dans une espèce de soupe et avec des propriétés complètement différentes.
Qu'on appelle le plasma.
Ça, depuis, c'était un physicien qui aux États-Unis, d'origine russe, qui a donné ce nom à cette matière déconfinée, qu'on a donné le nom des plasmas, des quarks et des gluons, effectivement.
Il y a d'autres plasmas de...
En fait, les quarks et les gluons, c'est les deux, c'est les seules particules dominantes. Alors, vous dites deux particules, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Derrière les mots quarks, en fait, il y a six quarks différents. On appelle ça les saveurs des quarks. Non, d'ailleurs, il y a six types différents. À chaque saveur des quarks, il y a une charge de couleurs. On appelle ça couleur. Je ne sais pas les bons mots, mais c'est comme ça que les Américains l'ont appelé les années 60-70. Parce qu'en fait, de la même façon que quand on parle d'une particule chargée, il y en a deux, positif et négatif. Quand on parle des quarks, de l'interaction forte, il y en a trois. Et comme il y en a trois, on a fait l'analogie de la couleur pour les êtres humains, qu'on voit, pas moi parce que je suis daltonien, mais les êtres humains normaux, ils voient la couleur en trois composants. Bon, ça c'est pareil. Et par analogie, on dit qu'il y a un quark rouge, vert et un quark. Donc il y a trois pour chaque saveur, il y en a trois couleurs, ça nous mène à 18 quarks. Et pour les gluons, la combinaison des couleurs, c'est un peu plus compliqué, il y en a en fait 8 types de gluons. Donc pour finir, on a les 18 quarks et les 8 gluons. Et au quark, il faut rajouter que dans les plasmas des quarks et des gluons, il y a aussi des anti-quarks, il y a de l'antimatière. Et donc du coup, il y a les 18 anti-quarks qui se mêlent dans l'affaire. Évidemment, les plasmas produit d'autres particules fondamentales, comme sont les électrons, les muons, les photons. Mais il y en a beaucoup moins. Il y a un facteur 100 des moins, donc on a la tendance à les ignorer. Mais ils existent, ils sont produits. Et de facto, ces photons, électrons, nous aident aussi, c'est un observable qui nous permet de mesurer des propriétés du plasma, comme sa température, par exemple.
Pour avancer dans vos recherches, vous vous êtes créé votre propre représentation mentale ou ça reste abstrait?
Disons qu'il y a dans notre domaine, on se sépare en trois catégories, je dirais. Il y a les théoriciens qui essaient de développer la théorie, de la compléter, de faire des calculs de plus en plus poussés. Il y a l'expérimentateur auquel j'appartiens, qui s'intéresse aux détecteurs, à la construction des nouveaux détecteurs, pour observer ce qui se passe dans les laboratoires. Quand on essaie de créer des petites gouttes, on dira peut-être après comment on les crée, mais quand on crée dans le laboratoire des petites gouttes de plasma, des coagulions. Et il y a une troisième catégorie, je l'appelle les phénoménologues, qui essaient quand même de relier tout ça, les observations de l'expérimentateur, avec la théorie. Donc les trois communautés coexistent. Mais comme je disais, moi, c'est plutôt dans la partie expérimentateur qui consiste à faire des détecteurs pour détecter toutes les particules créées lors de la goutte du plasma, de les analyser. Et ça crée normalement des quantités de données qui sont phénoménales. Donc il y a des analyses qui sont puissées pour aller chercher la chose qui nous intéresse. Donc forcément, en plus des détecteurs, il y a beaucoup d'informatique, de traitement des données. Et ensuite, il y a l'obtention des résultats, la publication et la communication dans des gros colloques internationaux.
Quels sont les appareils utilisés?
Des appareils dans la physique des particules, il y en a plusieurs. Et c'est tout type d'appareil, il y en a qui se développent encore aujourd'hui, évidemment, c'est une recherche très importante de découvrir de nouveaux appareils. Et il y a des appareils qui servent à détecter les photons, les électrons, c'est ce qu'on appelle des calorimètres électromagnétiques. On fait face avec des gros cristaux qu'on fait pousser dans les laboratoires, et c'est des matériaux qui ont des propriétés très particulières, c'est que une particule comme un photon, l'électron rentre et ça produit de la lumière. Mais cette lumière n'est pas absorbée par le matériel lui-même. Et ce qui nous permet, en regardant la lumière émise dans ces matériels, de savoir quelle était, par exemple, l'énergie de la particule qu'on a détectée. Il y a des détecteurs à gaz. Et un exemple, on a construit environ 100 mètres carrés de détecteurs de gaz à Multifi, et c'était une découverte de Georges Charpak, pour lequel il a reçu les prix Nobel. Et nous, en fait, il y a 15 ans, on a construit beaucoup de chambres en utilisant encore cette technologie. Les détecteurs à gaz est moins cher, ça nous permet de faire des grandes surfaces à un prix raisonnable. Et ensuite, dernièrement, on a besoin d'avoir une précision spatiale très très forte. Et on fait face à des détecteurs de silicium à pixels. Et dernièrement, le dernier projet qu'on a développé à Subatec consiste à construire un détecteur de silicium en utilisant finalement la même technologie qu'on utilise pour faire des chips électroniques dans les téléphones portables, les chips électroniques. On fait la même chose, sauf que les mêmes chips électroniques nous permet de détecter des particules qui traversent les chips. On appelle ça un chip monolithique. Et ça, c'est aussi la troisième technologie majeure dans laquelle on travaille. Il y a d'autres technologies qui se mettent en place. J'ai des collègues, d'ailleurs le même groupe qui je disais tout à l'heure, qui fait la recherche de la matière noire, qui utilise de nouvelles technologies très prometteuses. C'est pas un gaz, mais ça se rappelle un gaz. Et c'est pas un calorimètre électromagnétique, mais ça rappelle un calorimètre électromagnétique. et ce n'est pas du solide, ni du gaz, c'est du liquide. Et c'est un groupe qui travaille avec la technologie du gaz rare, xénon liquide. Donc c'est important qu'il y ait aussi des recherches, indépendantes de la physique fondamentale, mais des recherches qui nous poussent à créer des nouveaux types de détecteurs pour pouvoir faire des meilleures observations.
Ce sont les appareils, mais alors qu'est-ce qu'on observe ou qu'est-ce que ça produit? Vous parliez de gouttelettes tout à l'heure.
En fait, les détecteurs détectent des particules. Ça peut être un électron, un photon, ça peut être un proton, un pion, un kaon, un dipsy. Je pourrais passer une heure et demie à parler des particules qu'on peut détecter. Toutes ces particules sont issues de la goutte quand elle s'est refroidie. Alors la question c'est, mais vous créez la goutte, comment vous chauffez dans une cuisine, c'est comment que c'est créé? Et ça c'est une idée qu'il y a eu un physicien américain début des années 80, il s'appelait Bjørken. Suite justement à la formulation de la théorie, il a dit, écoutez, si on fait accélérer, pas des petites particules, mais des particules les plus grosses qu'on peut accélérer, et c'est les noyaux des noyaux lourds, hein, comme les plombs, l'uranium, donc c'est un truc qui a 200 protons et neutrons, c'est un gros truc, même si ça reste petit, on les accélère à une énergie relativiste. C'est quoi une énergie relativiste? C'est quelque chose qui va pratiquement à la vitesse de la lumière. On ne pourra jamais l'atteindre, mais pratiquement à la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas ça qui nous donne une mesure de vraiment son énergie. En fait, une façon de comprendre, c'est que l'énergie cinétique de ces noyaux de plomb accélérés devient 100 000 fois plus grand que son énergie de masse. Et quand on arrive à ces énergies, on les fait collisionner. Et lors de ces collisions, l'énergie cinétique se transforme en énergie, disons, thermique. Et on crée ces petites gouttes de plasma. Alors, c'est des gouttes de plasma qui sont très petites, la taille du noyau atomique, et qui sont à des pressions qui sont des billions et des billions et des billions d'atmosphères, et qui sont entourées du vide. Donc, vous imaginez bien que ça fait une expansion violente contre les vides, et c'est-à-dire que le volume augmente, la température chute, et on finit par créer toutes ces particules qui arrivent au détecteur. Beaucoup de mes collègues appellent ces phénomènes d'expansion de la goutte un espèce de mini Big Bang. C'est comme si on faisait des mini Big Bang dans les laboratoires.
Merci de dire que j'imagine bien.
Oui, c'est sûr, tout le monde imagine bien, tout le monde.
J'ai une représentation dans ma tête, mais je ne suis pas sûr qu'elle est très scientifique.
La représentation, c'est un sujet en soi, hein, pour nous tous, hein, pour nous tous. Mais effectivement, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'on comprend vraiment? Parce qu'on est guidé quand même par les outils mathématiques, par la représentation mathématique de la chose. C'est ça qui nous guide. On retrouve le même problème avec la compression de la physique quantique, hein, à une échelle un peu plus grande, mais qui reste microscopique. Hein. Est-ce que vraiment on la comprend ou est-ce qu'on comprend les mathématiques qui vont avec? C'est une question profonde.
Merci à Rines Martinez, directeur du laboratoire Subatec Nantes, pour sa libre participation à ce programme réalisé dans le cadre de la 29e semaine de l'astronomie organisée par la Société d'astronomie de Nantes.
Marcher et parler, c'est toujours intéressant. Marcher et réfléchir aussi. Et on passe. Je pense que c'est intéressant. En plus, on passe je ne sais pas combien de pourcentage de temps, mais la plupart de notre vie assis. Disons, ça dépend du travail, évidemment. Dans mon cas, je passe beaucoup de temps assis. Et quand même, marcher, ça sert à trouver un équilibre, en fait. Et donc, je trouve cette idée très originale et réconfortante, en fait. Après, je pense que c'est plus, si je me trompe, j'ai l'impression que c'est plus, pas informel, mais plus spontané, le fait de marcher. Il y a des sensations qui m'arrivent, des gens qui passent, des voitures, des vélos, etc. Donc il y a un côté plus spontané de ce qu'on dit. Qu'est-ce que je retiens d'autre? Bon, il ne fait pas très chaud, mais ça va. Il y a pire. quand je parle des températures des billions de degrés, il faut dire que l'énergie macroscopique, c'est de l'ordre de 1 millijoule. 1 millijoule, c'est l'énergie d'un moustique à sa vitesse de croisière sans rien du tout. L'effet, c'est que cette énergie, elle est concentrée dans un volume très très petit que le volume atomique. C'est ça la chose qui nous fait monter à des températures des billions de degrés. Si je voulais faire, je fais chauffer, je dis ça à mes étudiants quand j'apprends ça en master, j'appelle ça l'expérience de la casserole vide. Et je parle d'une casserole vide qui serait faite en kryptonite dans laquelle on essaie de chauffer jusqu'à créer les plasmas des quarks et des gluons. Et l'énergie nécessaire pour chauffer cette casserole de quelques litres, là il n'y a pas assez d'énergie dans le système solaire pour pouvoir les créer, ça serait impossible. C'est vraiment ce qui nous permet de la faire, c'est de mettre un millijoule l'énergie d'un moustique dans un volume de la taille des noyaux atomiques.